Cours de philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jodard, le 2 mai 1991.
Puisqu'il n'y a plus de questions à propos de l'intellect agent, nous avançons. Nous avons donc rappelé au plan philosophie du vivant, c'est-à-dire la philosophie qui analyse nos opérations vitales, qui précise les 3 degrés de vie qui sont en nous, vie végétative, vie sensible, passionnelle et vie spirituelle. Dans cette vie spirituelle, on a essayé de comprendre la place exacte de l'intelligence et de la raison. On distingue bien ces deux plans de l'intelligence qui juge, qui discerne, qui cherche la vérité et le raisonnement. Le raisonnement qui est notre manière particulière d'être intelligent. C'est-à-dire d'être intelligent de la façon la plus pauvre qui soit. Il y a des gens qui raisonnent énormément et qui ne sont pas très intelligents. Et même souvent, hein, le raisonnement, c'est le refuge des pécheurs. Voyez, ils raisonnent à perte de vue. Le monde d'aujourd'hui raisonne à perte de vue. Pas très intelligent. C'est très curieux. Le jugement est comme enfoui par le point de vue du raisonnement. Je crois que c'est constatable, ça. C'est le primat de la logique. La logique est tout à fait à l'aise dans les raisonnements. Parce que dans les raisonnements, la logique joue un rôle. Pour l'intelligence, la logique est science. Tandis que lorsqu'elle étudie l'universel. Tandis que dans le raisonnement, elle est tout à fait à l'aise. Et elle joue un rôle important en distinguant les différents raisonnements. Alors, je ne vais pas ici les différents raisonnements. Au point de vue vital, c'est beaucoup moins intéressant. Spirituel est avant tout l'appréhension qu'on assimile, le discernement du jugement et l'aspect du raisonnement qui est analogue à la croissance. On a fait un parallélisme du reste intéressant qu'il ne faut pas oublier, mais un parallélisme qui implique un raisonnement analogique. Comme il y a dans la vie végétative, ces 3 aspects, l'assimilation. Vous vous en apercevez quand vous avez mal à l'estomac. Vous êtes trop mangé. Vous assimilez mal. Le point de vue de la croissance et le point de vue de la procréation. Les 3 grands aspects de la vie végétative. Législative implique ces 3 moments. La vie végétative est fondamentale à notre vie humaine. Je dis bien fondamentale. C'est-à-dire qu'elle dispose et ne détermine pas. Un être humain qui est déterminé par sa vie végétative est un triste bonhomme. C'est bien évident. Parce qu'il est analogue aux animaux. Souvent, le rythme de notre vie peut dépendre de ce point de vue végétatif. Petit déjeuner, grand déjeuner, souper ou dîner. Alors on est bien ponctué par là. Et puis on dort. entre deux, il y a le travail. Entre deux, il y a le travail. Alors ça, c'est la vie sensible et passionnelle. Et les raisonnements intellectuels. Il y a la vie végétative. Puis, il y a la vie anarchique qui est sensible et passionnelle. La vie végétative n'est pas anarchique. Quand c'est une vraie vie végétative, c'est même le premier moment de l'éducation. Vous éduquez les êtres humains à ne pas manger n'importe comment et à ne pas manger n'importe quand. Et quand vous commencez le dérèglement de la vie végétative à manger n'importe quelle heure et tout le temps, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça se manifeste tout de suite. Tenir bon entre les repas, on ne mange pas. C'est élémentaire. Mais c'est pas toujours appliqué. La vie sensible, c'est une vie anarchique. Elle n'a pas de finalité. La vie végétative a une finalité. Une finalité immanente, l'assimilation. Une finalité de dépassement, la procréation. La procréation finalise notre vie végétative. Ça, c'est sûr. Et l'assimilation est une finalité immanente pour la vie végétative. Il faut vivre. Et vivre, c'est réparer les dégâts des fatigues. Alors, il faut réparer. Et quand justement l'assimilation se fait mal, il y a quelque chose qui ne va plus du tout. Alors, à ce moment-là, la vie sensible, la vie affective, passionnelle, est anarchique. Elle va dans tous les sens. Elle n'a pas de finalité propre. Si ce n'est la jouissance, qui n'est pas une finalité. La jouissance passionnelle. Intéressant d'étudier ce terrain volcanique, anarchique, que représentent dans notre vie les passions. Ce que représente le domaine imaginatif. L'imagination et les passions. C'est volcanique, ça va dans tous les sens. C'est important de le reconnaître et de voir qu'il n'y a pas de finalité dans ce domaine. On peut essayer de l'analyser. Alors on a la grande analyse du concupiscible et de l'irascible. On a l'analyse des sens externes et des sens internes. On analyse ce labyrinthe volcanique. Plus ou moins, ça dépend. Ça dépend des moments. Puis il y a troisième degré de vie où on retrouve une finalité. Et c'est même là où on a la vraie finalité, la vie de l'esprit. Dans cette vie de l'esprit, on étudie en premier lieu l'intelligence. Et dans l'intelligence, on retrouve une assimilation intentionnelle qui n'est pas une finalité. On retrouve un discernement par le point de vue du jugement, et on retrouve une croissance par le raisonnement. Une croissance qui fait des nouvelles découvertes, le raisonnement inductif. Le raisonnement inductif est un raisonnement inventif. Je découvre des domaines que je n'avais pas découverts avant, les principes propres. Puis j'exploite les raisonnements déductifs. On exploite tout ce qu'on connaît, tous les principes qu'on connaît. Et puis, on découvre encore raisonnement a posteriori. Il y a trois grandes formes de raisonnement. Ça, il faut bien les comprendre. Il y a trois grandes formes de raisonnement. Trois grandes formes de croissance dans ma vie intellectuelle. raisonnement révolutif, voyez, on passe du complexe au simple. Vous trouvez quels sont les fondements. C'est le raisonnement propre de la critique. C'est un raisonnement particulier parce qu'il se fait au niveau de l'intelligibilité, au niveau de ce qui est assimilé et de ce qui est rejeté. On analyse à ce moment-là le développement, le labyrinthe de la pensée. Comment la pensée peut se développer dans des sens divers. Ce raisonnement résolutif. Je crois que c'est les quatre grandes formes de raisonnement. Cherchez s'il y en a d'autres. Je ne crois pas. Mais c'est intéressant de se poser la question et de voir s'il y a des raisonnements autres que ces quatre. Vous voyez, quand Foucault essaie de donner le raisonnement, qui est un raisonnement d'archéologue, de retrouver la source. En réalité, c'est le fondement, c'est pas la source, c'est le fondement. C'est ce que fait les fouilles quand on fait des fouilles. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait des fouilles? On essaie de saisir les niveaux différents de civilisation. Et quand vous pensez qu'à Jérusalem, le sol actuel par rapport au sol de Jésus, ça fait quelques mètres. Ça s'est accumulé. Vous voyez ça très très nettement quand vous visitez le lieu de Notre-Dame de Sion. On croit avoir retrouvé le lieu de la flagellation, le lieu du tribunal. Jésus a été en face de Pilate. On voit tout descendre. Et on retrouve le sol qui doit être le sol que Jésus a foulé. Et c'est ça l'archéologie. Quand vous êtes à Istanbul, vous voyez des quantités de choses qui se sont accumulées. Et vous sentez très bien qu'il faudrait creuser et faire ça soigneusement, parce que si vous ne le faites pas avec beaucoup d'attention, vous télescopez, et vous donnez un coup de pioche trop rapide, et vous saccagez tout, et vous ne le retrouvez plus. C'est très curieux, ça, quand vous regardez Rome, et voyez, toutes ces méthodes archéologiques, on peut employer une méthode archéologique pour notre pensée. C'est la méthode du devenir, c'est retrouver le trajet du devenir. C'est la méthode archéologique qu'on applique pour l'évangile de Saint Jean. On emploie une méthode archéologique. C'est impossible que Jean ait composé ça d'un tout. Non, il faut essayer de remonter. Premier, La démonstration, a priori, a posteriori, et puis ce point de vue archéologique. Alors vous pourriez encore avoir un autre raisonnement, mais qui serait encore une démonstration. Simplement, ça change. C'est le raisonnement d'un avocat, le raisonnement d'un journaliste. C'est intéressant à étudier, parce qu'on voit souvent ça ne tient pas. Alors c'est intéressant d'avoir un petit instinct critique là-dessus, pour voir qu'est-ce qu'il cherche. Il cherche la vérité, il cherche le vraisemblable. L'avocat, très nettement, cherche le vraisemblable. Il cherche à persuader. Donc il se sert d'exemple. Il se sert de témoignage. C'est la différence aujourd'hui du témoignage et de la contemplation et de la théologie. Le témoignage n'est pas. Alors, quel est ce genre de raisonnement du témoignage? C'est un raisonnement rhétorique. Chercher tous les labyrinthes de notre intelligence. En philosophie du vivant, on regarde tous ces labyrinthes. On regarde les diverses finalités. Où c'est la vérité? Où c'est le vraisemblable? La finalité, la vérité tend vers la science et la contemplation. Le vraisemblable tend vers le témoignage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont sensibles qu'au témoignage. À cause de leur affectivité. Très très développée. L'affectivité cherche le témoignage. C'est plus facile. Le raisonnement, il faut être intelligent. Il faut que l'intelligence ait développé son cheminement propre et dépassé le point de vue purement affectif. Alors c'est sûr qu'on voit qu'il y a eu un moment où le raisonnement était tout, tellement tout qu'il y a une réaction violente, le témoignage. Mais le témoignage, quand il prend toute la place, appelle une réaction violente de l'intelligence. Faut essayer de comprendre ça. Ça, c'est la vie de l'intelligence. Et la vie de l'intelligence prend ses cheminements multiples et divers. Je ne peux pas ramener toute ma vie spirituelle à ma vie intellectuelle. La vie de l'esprit ne se ramène pas uniquement à la vie intérieure, sauf si je suis cartésien. Descartes ramène la vie de l'esprit à la vie de l'entendement. Je crois que Descartes n'a jamais été père. Et Descartes n'a jamais été vraiment l'ami. Il avait beaucoup de relations, des quantités de relations européennes. Comme la limite, ce sont des Européens. À titre de relations multiples, c'est dangereux quelquefois de parler trop de l'Europe parce qu'on perd ses racines. Alors on n'a plus que des relations. Alors, il s'agit de comprendre qu'est-ce qu'il y a en plus de l'esprit. Pour Descartes, et c'est là la grande faiblesse de Descartes, faut bien la regarder, parce qu'on est tous un peu cartésiens, si on est français, si on est autrichien et allemand, on est tous un peu kantiens, tous, c'est évident, si on est grec, on a oublié. Artistique. Il faut y aller pieusement, c'est évident, mais on peut y aller aussi
existé.
Il faut saisir ce qu'il y a de commun comme ça dans les positions philosophiques. Je me souviens dans un dialogue que j'ai eu avec des Freudiens, de bons Freudiens, intelligents. Je leur disais tout le temps, mais comme vous êtes cartésien, vous restez Descartes. Vous comprenez absolument pas ce que c'est qu'un vilain intelligent. Vous ne comprenez que la raison. Et vous ne comprenez absolument pas ce que c'est que l'amour spirituel. Vous restez un amour passionnel. C'est intéressant d'essayer de comprendre l'erreur de Descartes au point de vue de la philosophie du vivant, au point de vue d'une anthropologie. C'est qu'il identifie la volonté à l'efficacité. Et l'affectivité est au niveau passionnel. Alors, je peux tout de suite, si j'ai l'expérience d'un véritable amour d'amitié, comprendre que l'amour est premièrement pour l'homme, pas premièrement génétiquement, mais selon l'ordre de perfection, un amour spirituel. Je suis capable d'aimer spirituellement une personne et de l'aimer vraiment. Il y a un amour spirituel. La fidélité dans l'amour est spirituelle. L'amour d'amitié me fait atteindre la personne et me fait découvrir la personne. L'ami est une personne. Ce n'est pas, comme on dit aujourd'hui, ce n'est pas un objet. C'est quelqu'un que j'aime pour lui-même et non pas vraiment pour moi. Je l'aime pour lui. Un amour désintéressé. Un amour désintéressé, ça existe encore. C'est pas un amour utilitaire, c'est pas un amour de jouissance. Je l'aime pour lui. Ah, quand je l'aime pour lui, je ne veux pas dire que nécessairement je ne l'aime pas pour moi. Ça ne veut pas dire que l'ami n'est pas pour moi source de très grande joie ou de très grande utilité. Mais c'est comprendre qu'il y a un dépassement de la joie, de la jouissance, de l'utilité pour aimer l'autre pour lui-même. Une fois que je découvre cela, je dis, il y a donc un amour spirituel, volontaire, que je dois essayer de comprendre. Je crois qu'on peut assez facilement découvrir cela, si on a l'expérience de l'amour d'amitié. Si évidemment, on a comme expérience qu'un amour de jouissance, c'est assez restreint comme expérience. Noceur, ça va pas très loin, ça se répète, phénomène de répétition psychologique et passionnelle. C'est curieux que la passion aime la répétition. Quand on a bu un bon verre de vin, on veut en boire un second, et quand on a bu deux, on veut en boire un troisième, et quand on a pris trois, on veut en boire un quatrième, jusqu'au moment où on roule en dessous de la table. Comme ça, le banquet de Platon. C'est très significatif. Ça, c'est l'amour passionnel qui aime la répétition. L'amour spirituel est au-delà de la répétition. Parce qu'on touche une personne. C'est peut-être pour nous le signe le plus net du désir. personne est un certain absolu. C'est la vie personnelle que j'atteins. Donc il peut y avoir fidélité. Ça, on le verra. Je me signale ici simplement le fait. La question primordiale. Suis-je cartésien? Ou, en raison de l'expérience, je ne peux plus accepter Descartes? C'est très important. profondément d'humain en moi. Mes passions, ce n'est pas ce qu'il y a de plus profond en moi. C'est très humain, les passions, c'est évident. Je le sens très bien, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus humain en moi. Il y a quelque chose qui va plus loin que les passions. C'est ma volonté d'aimer. C'est de créer des relations avec quelqu'un que je veux aimer. Comme je te pousse. Il y a beaucoup de peine à réveiller, c'était difficile. réaliser. J'ai faim. Des quantités de gens vivent à ce niveau-là. Conditionnement du vécu. Le volontaire apparaît quand justement il y a une finalité. Je pose un acte volontaire en vue d'atteindre une fin. Ça, c'est le volontaire. Est-ce que on peut parler du volontaire sans que on connaisse l'appétit spirituel et la poésis? Oui, c'est ça le point de vue important, au point de vue historique. Je crois qu'Aristote parle du volontaire. Il parle très peu de la poésis, mais qu'il l'a découvert nécessairement. Toute notre vie morale, toute notre vie